RMC.
Une radio, une appli, connectée à notre région. Vous écoutez ici, il est 1h. Ici, soutien les artistes locaux.
Vous écoutez Ajac Aes.
J'ai du vent dans les voiles et j'ai mis le cap sur Los Angeles. Au museau de revoir, un peu de mon parfum, je te le laisse. Au creux de l'oreille.
Ajac Aes, auteur, compositeur, interprète, multi-instrumentiste, vit entre la Drôme et Los Angeles.
Je suis un spécimen de l'espèce humaine. Et les filles en fleurs, je les éclabousse. Je pique dans leur sac. Que mon amour est.
Ajac Aes avec Spécimen.
Une sélection ici de Romardèche.
Ici, la nuit, on prend le temps de rattraper le temps. Écoutez nos replays et nos podcasts. Un podcast ici Isère.
Révolutionner un domaine, ça tient à pas grand chose. Et le destin de l'Isérois dont on va parler en est peut-être le meilleur exemple.
Nom de Dieu.
Adolphe Pégou vient au monde le 13 juin 1889 à Montferrat, à côté du lac de Paladru, dans une famille d'agriculteurs.
Paysans, c'est dégueulasse.
Mais labourer des champs, s'occuper des semailles, c'est pas le projet pour Adolphe. Dès qu'il a 18 ans, bye bye la ferme, bonjour la grande muette, il s'engage dans l'armée et c'est là qu'il va faire une découverte qui va changer sa vie, le pilotage aérien. Revenu à la vie civile, Adolphe Pégou ne chôme pas. En moins d'un mois, il passe du statut de débutant à l'obtention du brevet de pilote.
Vous avez fait à 4G un piqué inversé avec un MiG-28.
D'ailleurs, un mois, c'est encore le temps qu'il lui faudra pour être embauché comme pilote d'essai par Louis Blériot, l'une des références de cet univers à l'époque.
Waouh ! Tout le monde se calme !
Mais Adolphe ne va pas s'arrêter là. C'est un enchaînement de premières qui va faire sa légende. Parce que le 19 août 1913, première, il est le premier pilote à sauter en parachute.
Hé hey Adolphe, on pensait t'attacher un gros drap dans le dos pour que tu sautes d'un avion qui pourtant fonctionne très bien en plein vol. Qu'est-ce que t'en penses?
Et alors que la descente se fait tranquillement, il observe son avion qui descend tout seul. Sans personne aux commandes, Pégou voit son appareil faire des figures qu'il n'a jamais vues de sa vie. Sa première pensée, c'est de se dire
« C'est de toute beauté !»
Et la seconde, mais des manœuvres comme ça, ça pourrait permettre à un pilote de se sortir de situations désespérées. Une réflexion qu'il va mettre en application un mois plus tard, c'est décidément une constante, en réalisant le premier vol tête en bas de l'histoire, 400 mètres la margoulette inversée, et devant son patron Louis Blériot.
Quelle histoire ça aussi.
Le 21 septembre 1913, moins d'un mois après cette performance, le bougre accélère. Adolphe Pégou réalise cette fois tout un programme de figures acrobatiques qui se termine par le désormais célèbre looping.
Attends que je t'explique mon idée, enfin.
Adolphe Pégou est-il le premier à l'avoir réalisé? Les historiens n'arrivent pas à trancher entre lui et le russe Piotr Nesterov, mais ça n'empêchera pas la légende de l'Isérois de naître à ce moment.
Impeccable, non?
Toute la presse relate sa démonstration. Il est demandé de partout, en Europe, en Russie, même en Allemagne, où on est normalement pas très fan des Français à l'époque. Cette star de la voltige se produit devant parfois des dizaines de milliers de personnes. Et alors que les États-Unis réclament aussi de voir Adolphe dans leurs cieux, la Première Guerre mondiale éclate. Adolphe Pégou est affecté au 2e groupe d'aviation de Reims et rapidement, le professionnel des acrobaties aériennes utilise son savoir-faire pour s'imposer dans les airs. Premier pilote à remporter 5 combats aériens de l'histoire, Adolphe Pégou devient donc le premier as de l'histoire de l'armée française.
Et Verboten aussi.
Pégou, pionnier, jusqu'au bout. Sa légende prendra fin le 31 août 1915. Il rencontre dans le ciel Otto Kandulski, l'un de ses anciens élèves et pilotes allemands, là-bas dans les airs, pas loin de Belfort. L'aviateur germain et son mitrailleur lui rendront hommage quelques jours plus tard en déposant une couronne de fleurs ornée de l'inscription « À Pégou, mort en héros pour sa patrie ». Ses inventions ne furent pas suffisantes pour lui sauver la vie. Adolphe Pégou, le pionnier de la voltige aérienne, est un Isérois, illustre Isérois.
Ici, la nuit, on prend le temps de rattraper le temps. Écoutez nos rediffusions et nos podcasts. Un podcast ici Garlozère.
Bonjour, je me présente, je m'appelle Julien. Ma passion et mon travail, c'est le tatouage. Depuis, alors mes premières machines, je les ai achetées il y a une quinzaine d'années. J'ai commencé en autodidacte. Et un jour, j'ai une amie qui est partie se faire tatouer dans un salon et j'avais besoin de faire régler mes machines. Et je lui ai demandé si je pouvais l'accompagner pour demander des conseils au tatoueur. Et le feeling est bien passé avec le tatoueur et donc il m'a proposé un apprentissage. Et je suis resté 2 ans chez lui pour apprendre le tatouage.
C'était une reconversion ?
Oui, avant je travaillais à Haribo. Alors j'ai toujours été passionné par la bande dessinée. C'est un métier où c'est compliqué d'en vivre. Donc je me suis tourné vers le tatouage parce que ça permettait d'allier ma passion du dessin avec une manière de gagner ma vie.
Il y a beaucoup de tatoueurs, il y en a partout. Depuis quelques années, c'est devenu énormément à la mode.
De plus en plus de personnes ont pu avoir accès au matériel de tatouage. Et donc ça a permis d'ouvrir ce métier à des personnes qui viennent des Beaux-Arts ou qui sont aussi passionnées par le dessin. Et ça a été un vecteur pour pouvoir vivre de leur passion.
Chaque tatoueur a un peu sa spécialité ou un univers. Le vôtre, c'est quoi ?
Alors moi, ce que je préfère tatouer, c'est tout ce qui va être organique, donc du végétal, l'animal, des insectes.
Qu'est-ce qu'il y a comme insecte à la mode en ce moment ?
Il n'y a pas vraiment de mode, je fais beaucoup d'abeilles. La majorité, c'est des insectes élégants, des libellules, des papillons. Il y a des personnes qui veulent marquer sur leur peau une partie de leur histoire. Et il y a d'autres personnes qui sont sensibles au travail artistique d'un tatoueur et qui veulent sur leur peau une pièce de ce tatoueur, comme par exemple un passionné d'art va vouloir un tableau dans son salon d'un artiste qu'il apprécie.
La Joconde dans mon dos, vous pouvez me faire ça ou pas ?
Alors c'est pas mon style, mais je peux vous orienter vers des personnes compétentes pour le réaliser.
La Joconde avec des ailes d'abeille.
Non plus. Je pourrais faire les ailes.
Merci beaucoup Julien.
Ici, la nuit, les oreilles sont grandes ouvertes sur nos meilleurs podcasts. Un podcast Ici Bourgogne.
Nous partons à la découverte des Maranges, ce petit territoire partagé entre 3 villages. Chéilly-les-Maranges, Sampigny-les-Maranges et Desize-les-Maranges, au lieu de la prochaine Saint-Vincent tournante 2026. Alors, avec Plus belle la vigne, on zoome sur ce territoire viticole caché dans une petite vallée. Ici, les coteaux font partie de la côte de Beaune, mais en Saône-et-Loire. Explication avec Élodie Roy, viticultrice et vice-présidente du comité d'organisation de la Saint-Vincent.
La côte de Beaune s'étale d'une même exposition, mais il y a une phase géologique à Santenay et les Maranges, on est une vallée un petit peu à part, je dirais.
Alors là, Santenay, c'est dans quelle direction ?
Santenay, c'est juste en face. Voilà,
là-bas. C'est dans le petit creux, là-bas ?
Là, vous voyez des bâtiments en face. Oui. Là, c'est tout le début de Santenay.
D'accord. Voilà. Et donc, après, il y a les hauteurs, en fait. Il y a les collines.
Les coteaux, voilà. Les coteaux. C'est une vallée, en fait. Les Maranges, vous avez la vallée de la Causanne et la vallée de la Deune. Donc, la Causanne, c'est une petite rivière qui circule sur Chéilly, sur Sampigny, qui prend sa source, en fait, à Vauchignon, au bout du monde. Donc c'est un nom qui, ça s'invente pas.
C'est joli.
C'est une petite rivière qui fait 14 km et qui se jette dans la Deune, juste à la sortie de Chéilly. Donc cette rivière, elle passe au milieu, là. Le petit village de Sampigny qui est ici, très étriqué, très enclavé, et sur les hauteurs, vous avez Desize, et tout en haut, le petit hameau de Borgy. Et la montagne des Trois Croix qui est en face de nous, connue aussi sous le nom de Mont-de-Seine. Alors, bon, moi je les vois les croix, mais je connais. C'est vraiment juste en face de moi. Je sais pas si vous voyez.
Non, mais
le petit point culminant.
D'accord.
On est à 521 mètres d'altitude, je crois. Et le vignoble des Maranges, est vraiment devant nous.
Alors, qu'est-ce qui fait que ça reste tout de même la côte de Beaune ? Alors qu'on décroche quand même de cette côte de Beaune.
On décroche de cette côte de Beaune, légèrement. Hein, c'est quand même pas. Parce qu'après, une fois passé la côte de Beaune, on est sur la côte chalonnaise. Mais la côte chalonnaise, on est sur la plaine de Saône. Nous, on est quand même très éloignés. La côte chalonnaise, elle est vraiment derrière cette colline-là.
D'accord.
Avec le village de Bouzeron qui commence la côte chalonnaise, Ruilly, Mercurey, etc. On a des terroirs distincts. Là, on a une carte géologique. Vous voyez qu'il y a beaucoup de couleurs différentes en fonction du type de sol.
Ah oui, je vois, jurassique, plutonique.
Donc ça, ce sont des niveaux géologiques. Donc là, on parle de millions et de millions d'années. Pour faire simple, c'est argilo-calcaire, mais pas que. On est un vignoble assez tardif. On vendange souvent plus tard que les autres appellations de la Côte de Beaune.
Vous êtes entre la Côte de Beaune et les Hautes-Côtes finalement.
Oui, exactement. C'est ça. Les Maranges, ils sont exposés sud-sud-est, on va dire. Les Hautes-Côtes, moi personnellement, j'ai des parcelles, elles sont exposées vraiment plein sud.
Nouvelle confirmation de la définition hyper millimétrée des terroirs bourguignons.
Ici, actu locale, musique et bonne humeur.
Enfant des parcs, gamin des plages, le vent menace les châteaux de sable façonnés de mes doigts. Le temps n'épargne personne, hélas. Les années passent, l'écho s'évade sur la dune du Pila. Au gré des saisons, des photomatons, je m'abandonne à ces lueurs d'autrefois. Au gré des saisons, des décisions, je m'abandonne. Quand les souvenirs s'en mêlent, les larmes me viennent, et le chant des sirènes me replonge en hiver. Oh, mélancolie cruelle, harmonie fluette, euphorie solitaire. Combien de farces, combien de frasques, combien de traces, combien de masques avons-nous laissé là-bas? Poser les armes, prendre le large, trouver le calme dans ce vacarme avant que je ne m'y noie. Oh, des saisons, des photomatons, je m'abandonne à ces lueurs d'autrefois. Au gré des saisons, des décisions, je m'abandonne. Quand les souvenirs s'en mêlent, les larmes me viennent, et le chant des sirènes me replonge en hiver. Oh, mélancolie cruelle, harmonie fluette, euphorie solitaire. Et le chant des sirènes me replonge en hiver. Oh, mélancolie cruelle, harmonie fluette, euphorie solitaire. Quand les souvenirs s'en mêlent, les larmes me viennent, et le chant des sirènes me replonge en hiver. Oh, mélancolie cruelle, harmonie fluette, euphorie solitaire.
Écoutez ici la nuit et profitez du meilleur de nos podcasts. Un podcast ici mène.
Imaginez grimper les murs, sauter les trottoirs à tous âges et en tout temps. Eh bien, du rêve à la promesse, il n'y a qu'un pas, le Hangar Cool Kids Club au Mans, un nouveau lieu qui va vous permettre de vous remettre en forme sans pression. Alors qu'est-ce que ça vaut? Eh bien aujourd'hui, j'ai testé pour vous le Hangar. Nous sommes à quelques pas de la salle Oasis, dans une rue où parmi les maisons se trouve un bâtiment blanc qui passe presque inaperçu. Lorsqu'on lève la tête, une pancarte indique le Hangar. Nous sommes au bon endroit.
Bonjour! Bienvenue au Hangar.
Clément Usune est le coach de la salle. C'est lui qui nous accueille dans ce lieu associatif et atypique.
C'est une asso qui développe le mouvement, la santé, le sport, qui s'adresse à tous les publics, à toutes les corpulences, à toutes, à toutes les capacités physiques ou non.
Et quand on dit tous les âges, c'est vraiment tous les âges, dès la naissance jusqu'au senior.
Il y a plein d'exemples de personnes qui ont commencé très tardivement dans leur vie et qui, après, avec leur niveau et leurs limites aussi, vont apprendre à se déplacer en sécurité et à franchir ces obstacles.
Parce que c'est tout le principe de cette pratique qui est le parcours, autrement appelé art du déplacement urbain.
Le parcours, c'est se déplacer d'un point A à un point B en franchissant les obstacles qui sont sur notre passage. Donc on a reproduit des obstacles comme on peut trouver à l'extérieur, des barrières, des murets, des rampes. On a aussi des matelas pour apprendre en sécurité ici avant de se retrouver à l'extérieur.
Une discipline que Clément Usune, le coach sportif, connaît par cœur, puisque ça fait, tenez-vous bien, 17 ans qu'il la pratique. Alors, est-ce que Clément est un bon coach? Eh bien, je me suis sacrifié et j'ai testé pour vous quelques figures qui sont normalement accessibles à tous. On démarre par le saut du voleur.
Du coup, l'étape 1, sans élan, comme ça, on va venir poser sa main forte. Donc moi, c'est ma main gauche et le pied opposé, le pied droit. Je passe ma jambe gauche entre les deux et je viens derrière.
Ah, ça a l'air simple, mais maladroit comme je suis, j'ai un peu failli glisser. Heureusement, tout s'est bien passé. On a d'ailleurs enchaîné avec un saut de précision. Des exercices tout bêtes, mais qui peuvent vous permettre de reprendre une activité physique. Et ce qui est génial, c'est que Clément prend le temps de vous aider à remettre en marche votre corps petit à petit. Alors, il y en a pour tout le monde. Inscription à l'année, si vous voulez être dans la durée. Il y a également des séances libres, une fois par semaine ou ponctuellement. Des événements le week-end. Et même un espace enfant avec des ateliers pour les 0 à 5 ans, un samedi par mois. Si vous voulez vous-même essayer avant de vous inscrire, il y a des portes ouvertes ce samedi et le samedi 13 septembre de 14h à 18h. Alors ce qu'on peut dire, c'est que le hangar Cool Kids Club, pour se remettre en forme, eh bien franchement, c'est testé et approuvé par Issimène.
Ici, la nuit, on prend le temps de rattraper le temps. Écoutez nos replays et nos podcasts.
Nous sommes dans le Pével et du haut de son échelle, lui, le précurseur Émile, bénéficie du plus beau panorama qui soit.
Je m'appelle Émile Vaz, je suis meunier à Mons en Pével.
Et Émile, ça date pas d'hier cette histoire de meunerie.
Ça dure depuis 1933, j'étais déjà meunier à ma naissance, je pense, c'est génétique.
Alors c'est vrai que ça fait plus de 1000 ans qu'on fait de la farine ici.
Je suis la 4e génération, suivie de la 5e et la 6e maintenant, c'est-à-dire 130 ans de présence meunière sur un site millénaire. Initié par l'abbaye Saint-Va d'Arras au XIe siècle.
Vous êtes comme moi pour la radio, en fait.
Effectivement, la meunerie est un métier passion.
Un bon meunier, Émile.
Alors, un bon meunier, c'est celui qui a la sensibilité dans les tripes.
Meunier, tu dors.
Cette comptine est diffamante et nous sommes à deux doigts de porter plainte contre l'auteur. Pourquoi, Émile?
On est meunier 24 heures sur 24 et moi je ne connais pas les horaires. Moi je suis meunier minute après minute. Quoi.
Voilà, et c'est pas un gamin qui vous le dit. Hein.
J'ai maintenant 75 ans de métier dans mon entreprise depuis ma plus tendre enfance.
Quels sont les sens qu'il faut avoir en éveil quand on est meunier?
Ah, les cinq. Ah oui, absolument. On a le pied à coulisse au bout des doigts. On a l'oreille tendue. Le bruit, on connaît pas. On connaît les sons. Hein. C'est une musique, la meunerie. On a aussi le nez, les odeurs caressantes des céréales. Et puis le goût, bien entendu. Dès qu'on franchit le seuil de sa maison pour se rendre sur le lieu des activités, tout est en émoi. Et on a la chair de poule constamment.
On travaille avec des machines aujourd'hui.
C'est vrai. Ici, ces derniers mois, nous avons installé des machines qui fonctionnent par intelligence artificielle, qui permettent d'éliminer l'invisible indésirable dans la préparation des céréales avant mouture. On est dans la sécurité alimentaire à fond.
Mais l'homme est indispensable, toujours là.
L'homme intervient. Les réglages sont évidemment indispensables et subtils. La direction des vents, des pluies, l'hygrométrie, les températures, tout ça influe cette séparation des éléments constitutifs des produits du sol.
Eh bien, merci Émile.
Moi, c'est ici que j'y suis né. Ma maman m'a mis au monde au moulin. Je baigne dans la Pével.
Ici, la nuit, on prend le temps de rattraper le temps. Écoutez nos rediffusions et nos podcasts. Un podcast ici Besançon.
Ici matin, jusqu'à 9h, Loïs Paton, Anne Fauvarc.
Il est presque 7h40, l'heure de la nécessaire minute comptoise d'Arnaud Fromage, que je ne vois pas pour l'instant. Arnaud, vous êtes là? Je vous sors du lit là, il faut vous réveiller maintenant, hein. c'est l'heure de la chronique là.
Vabandoust, et Untnegin. Pardon, je rêvais. Puis c'est très bizarre, parce que dans mon rêve, je parlais super bien estonien. Bon, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais il paraît que c'est pas si rare de rêver dans une langue qui n'est pas la nôtre, voire même d'une langue que vous ne connaissez pas du tout, comme moi avec l'estonien. Et ça porte un nom, d'ailleurs, ça s'appelle la xénoglossie. Et sur le site de Babel, l'un des sites qui propose des cours de langue en ligne, eh bien j'ai trouvé un article à ce propos. Alors, il y a plusieurs types de xénoglossie. L'article prend l'exemple de quelqu'un qui avait connu de l'hébreu dans son rêve, mais en cherchant bien, il s'était souvenu qu'il avait fait quelques cours d'hébreu quand il avait 13 ans, et que c'était probablement de là que ça remontait. Mais il est tout à fait possible de rêver dans une langue qu'on ne connaît pas du tout. Notez qu'on peut aussi penser que c'est cette langue-là, alors qu'il n'y a pas un mot qui est bon, c'est juste nous qui inventons un charabia en se disant que ça doit être du malgache ou du portugais.
Mais il y a aussi des cas cliniques beaucoup plus rares et plus impressionnants, hein.
Oui, qui se déclenche généralement après un accident grave ou un AVC. Par exemple, en 2015, en Chine, une ancienne prof d'anglais retraitée, âgée de 94 ans, est victime d'un AVC. À son réveil, après 2 semaines de coma, elle a totalement oublié le mandarin, sa langue maternelle, et ne parle désormais plus qu'anglais, qu'elle n'avait plus pratiqué depuis 30 ans. Autre cas, et cette fois c'est l'inverse, ça se passe en Australie. Un jeune homme de 21 ans, victime d'un accident de la route, se réveille à l'hôpital en étant totalement incapable de parler anglais. Il ne se souvenait plus que du mandarin qu'il avait étudié à l'école quelques années avant. Détail amusant, il est par la suite allé en Chine, où il est devenu présentateur d'une émission de télé sur place. C'est dire son niveau.
Ah bah dis donc, mais Arnaud, il y a une explication rationnelle à ça ?
Pour le cas des rêves, l'explication la plus plausible, c'est que le subconscient aurait retenu quelques bribes d'une langue sans qu'on s'en soit vraiment rendu compte consciemment. De quoi appeler Freud au secours. Pour les cas cliniques de gens ayant totalement oublié leur langue maternelle après un choc, l'explication se niche dans la latéralisation du cerveau. Et oui, vous n'êtes pas sans savoir qu'on a 2 hémisphères là-dessous. Or, notre langue maternelle est stockée dans l'hémisphère gauche du cerveau, quand les langues que nous apprenons par la suite sont stockées, elles, dans l'hémisphère droit. Ainsi, si la partie gauche du cerveau est atteinte par une lésion quelconque, dans certains cas, il est possible d'oublier sa langue maternelle. Vous ne vous souvenez plus alors que de celle qui se trouve stockée dans l'autre hémisphère, l'hémisphère droit qui n'a pas été atteint. Ça reste néanmoins fascinant et impressionnant, heureusement que c'est très rare. Mais voilà en tout cas un nouveau mystère du cerveau résolu, et sur ce, moi je vais me recoucher. Allez, Ome Naeme, ça veut dire à demain en estonien.
Ah bon, eh bien bonne nuit, j'ai envie de vous dire. Hein. Arnaud, ça me donnerait presque envie de bailler, c'est pas très gentil. Et j'espère qu'il m'arrivera rien, parce que si je dois parler anglais toute ma vie, autant vous dire que ça va être très difficile, parce que l'hémisphère droit n'a pas retenu grand-chose en anglais. La nécessaire minute côtoise, les infos insolites, mais des fois très intéressantes, hein, comme ce matin. À réécouter à tout instant sur l'application ICI, et puis également sur ICI.fr Besançon.
ICI. Sur ma peau gravée par la vie, sous mes yeux cernés par les nuits, les cicatrices de la route, d'un voyage cerné par le doute, les seules traces qu'on gardera seront tes actes, seront tes choix. Ouvrir les yeux et pour une fois essayer d'être fier de soi, essayer d'être fier de soi, fier de soi. Je sais d'où je viens, qui je suis, ce que j'ai fait, ce que j'ai dit. Je sais d'où je viens, qui je suis, ce que j'ai. Que j'ai fait, ce que j'ai dit. Tant que coule la vie, dire ce que l'on pense, faire ce que l'on dit, yeah. Sur mes mains les sillons du temps, dans mon cœur battu par le sang, usé par les espoirs déçus, les faux semblants, les coups tordus. Pouvoir soutenir son regard, ou voir un autre dans le miroir, ça reste un choix par hasard. Rester soi-même quand il fait noir, rester soi-même quand il fait noir. J'ai fait ce que j'ai dit. Je sais d'où je viens, qui je suis, ce que j'ai dit. Je sais d'où je viens, qui je suis, ce que j'ai fait, ce que j'ai dit. Tant que coule la vie, dire ce que l'on pense, faire ce que j'ai.
sur le miroir, rayé comme un mur de béton. Aimer c'est dur, vivre c'est long, vivre c'est long.
Les oreilles sont grandes ouvertes sur nos meilleurs podcasts. Un podcast ICI Berry.
Bonjour Johan.
Salut Manu.
Merci de nous recevoir dans ta boutique.
Tu commences à connaître l'adresse toi.
Voilà, on est toujours très très bien reçus. Les globes, alors ça il faut en parler. À une époque, nos parents,
nos grands-parents
recevaient ça en cadeau de mariage.
Alors là, tu vois, on est sur un objet emblématique de la brocante. C'est-à-dire qu'en décoration, dans la brocante, je connais des chineurs et des chineuses qui vont rechercher le globe de mariée. Là, on est à la fin du 19e. C'est un globe de mariée d'époque Napoléon III, dans toute sa splendeur. C'est-à-dire un globe en verre soufflé.
Flamboyant.
Ouais, flamboyant. Un socle en bois noirci. Et puis, à l'intérieur, il y avait souvent un petit coussin recouvert de soie qui recevait soit les alliances, soit une garniture en fil d'or, comme ça. Des fleurs et des oiseaux en laiton doré. Des petits miroirs. Là, celui-là est richement décoré. Ah,
une composition exubérante.
Oui, complètement. Et puis, des fois, on mettait des fleurs. Des fois, on mettait une petite bague en or. On célèbre une union avec un objet emblématique de la brocante.
Présenté comme ça, ça paraît un peu kitsch, on transforme aussi.
Oui, alors ma femme Emmanuelle a l'habitude, dans les globes Napoléon III, d'inclure discrètement une petite guirlande lumineuse qui marche avec des piles ou qu'on peut brancher. Et puis on en fait une superbe lampe, soit une lampe de table, ou sur une commode, ou sur une console à l'entrée. Ces globes-là ne sont pas très onéreux, on les trouve aujourd'hui entre 50 et 200 euros. Mais dans tous les cas, ils peuvent être très très efficaces en décoration. Ils sont très recherchés pour la déco.
J'adore, mais je le valide aussi, ça.
Oh, ça c'est super.
Écoutez ICI, la nuit, et profitez du meilleur de nos podcasts. Un podcast ICI Gascogne.
Bonjour, je m'appelle Vincent Charbonnier. Je viens d'écrire un livre qui s'appelle Anémenas de la Garbure en gascon et en français. C'est un livre bilingue. C'est à 11 enfants de la Garbure. Je suis d'Acoa à l'origine, donc forcément gascon capetout, comme on dit. Et je vous remercie de me passer le micro.
Vincent, parlez-moi de la période de l'enfance, de l'adolescence. C'était comment ici?
Effectivement, dans mon livre, je relate beaucoup de souvenirs de jeunesse. Il y avait beaucoup plus de sociabilité, je dirais. Les gens sortaient plus, on se voyait plus. Je suis né au Cassourat, à Dax, mais j'ai passé mon enfance au quartier du Gon. Et au quartier du Gon, il y avait au mois de mai des fêtes qui valaient bien des fêtes de village. Toutes les maisons étaient pleines d'invités et il y avait une spécialité, c'était les escargots. Il y avait 3 auberges dans le quartier. On servait des escargots en mode brasserie, du matin au soir. Les gens se déplaçaient de tout le département pour manger ces escargots. En Gascogne, la gastronomie, c'est un des piliers de notre culture. Je me rappelle, ma grand-mère, elle venait les jeudis. Le jeudi, c'était le jour où il n'y avait pas école, c'était le mercredi de maintenant. Mmh. Elle venait avec son vélo moteur, elle venait faire la cuisine rien que pour son petit-fils. Je mangeais des choses incroyables, je n'ose même pas en parler, des petits oiseaux, des bécasses, de la lauze, et elle faisait aussi beaucoup de soupe. Alors malheureusement, la garbure, pour la plupart des gens maintenant, ça signifie une espèce de potée au chou dans laquelle on vit du confit. Et ce n'est pas ça. La garbure, déjà le mot garbure, galbure en gascon, ça vient de galbe. Galbe qui s'écrit G-A-R-B-A, et ça veut veut dire gerbe. Donc la garbure, c'est le chou qui pousse en gerbe. C'est le chou cavalier, le chou qu'on donne au lapin. Et il faut le hacher assez menu de façon à pouvoir le manger parce qu'autrement il est trop dur. Donc ici, on fait de la soupe de garbure et on la distingue de la soupe de chou. Et souvent, maintenant, dans les restaurants, on appelle garbure quelque chose qui n'est qu'une simple soupe de chou. Je m'élève un petit peu contre ça, parce qu'on oublie nos traditions et surtout, on oublie un plat qui est extraordinaire. La garbure, c'est le goût est différent de celui du chou paumé. La garbure a un côté plutôt amer, alors que le chou tend plutôt vers le sucré.
Alors vous, ça vous ramène justement au souvenir de votre grand-mère. Est-ce que vous vous souvenez de la toute première fois où vous avez découvert la garbure quand elle l'a préparé?
Vous savez, vous parlez d'une époque où on mangeait. C'était surtout une alimentation carnée, très peu de légumes. Par contre, on mangeait la soupe à tous les repas. Donc les légumes, on les prenait avant, en quelque sorte. Elle faisait des soupes de toutes sortes. De la soupe d'épinards, de la soupe de citrouille, de la soupe de garbure, de la soupe de choux, etc., etc. J'ai une formule qui dit qu'en Gascogne, on aime bien associer à l'accord des mets la saveur des mots, parce que autour de la table, les plats, ils se chargent d'histoire. Donc voilà, ce livre, c'est une liaison de tout ça. Notre presque seul et unique devoir, c'est de transmettre. Donc, c'était ma façon à moi de transmettre ce que je suis en partie.
Vincent Charbonnier, auteur du livre, donc, Allons enfants de la garbure. Vincent, je ne vais pas quitter votre cocon de Sonia Kekorman sans que vous me disiez tout de même quelle est la radio qui vous a passé le micro.
La radio qui m'a passé le micro, c'est ici Gascogne.
Ici, la nuit, on prend le temps de rattraper le temps. Écoutez nos replays et nos podcasts.
Ici, Picardie, tous les jours, propose un billet d'humeur de l'autrice picarde Karen Ponte. Karen Ponte s'éparpille chaque jour. Bonjour Karen.
Bonjour. Alors, au quotidien, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il y a des bricoles qui sont hyper agaçantes. Par exemple, vous savez, ce petit bout de scotch qu'on n'arrive jamais à trouver sur le rouleau, ah oui, alors qu'on a besoin de scotcher quelque chose.
Oui.
Je pense qu'on est tous passés par ce moment où on retourne le rouleau sans cesse pour essayer de trouver ce petit bout sur lequel tirer. Et niveau rouleau, ne parlons pas évidemment des rouleaux de films alimentaires qui se déchirent n'importe comment jusqu'à ce que en colère, on le fout à la poubelle, oui, tellement on en a marre. Mais s'il y a une chose qui m'horripile plus que tout ces derniers temps, ce sont les bouchons de bouteilles qui désormais, vous savez, sont accrochés au rouleau quand on les ouvre. Ouais. Alors, qui a eu cette idée, hein? Je pose la question. Certainement pas quelqu'un qui boit du Yop.
Ouais.
Parce que quiconque boit du Yop sait qu'il y a toujours du yaourt dans le bouchon fin. Parce qu'on secoue la bouteille, évidemment, avant de boire. Ouais. Résultat, maintenant, avec ce bouchon qui reste accroché, eh ben, on s'en met partout. Et s'il n'y avait qu'avec le Yop que ça posait problème, mais non, avec n'importe quelle bouteille, ce bouchon ne se remet jamais du bon côté, il ne s'ouvre pas suffisamment, du coup, on s'en met plein la bouche, voire sur le t-shirt.
Voilà.
Bref, je pense que l'ingénieur qui a eu cette merveilleuse idée est sans aucun doute la réincarnation d'un chameau qui n'a jamais fréquenté de bouteille de sa vie. Et il est même sans doute de la même famille de celui qui s'occupe des ouvertures faciles des paquets de jambon fin. On doit vraiment se marrer d'ailleurs dans le repas de famille.
Oui.
Je vous dis à demain et d'ici là, rappelez-vous qu'être focus c'est bien, mais qu'être éparpillé c'est encore mieux.
Merci Karen. L'autrice picarde Karen Ponte qu'on retrouve chaque matin du lundi au vendredi sur Ici Picardie. Karen Ponte qui est aussi sur notre site ici.fr.
Ici. Actu locale, musique et bonne humeur.
Don't you worry. Écoutez nos rediffusions et nos podcasts. Un podcast ICI Azure.
Et oui, la raison 837, les fameux galets de la promenade des Anglais. Alors c'est vrai, aujourd'hui on va s'attaquer à un débat de fond, à un vrai sujet de société. Vous êtes plutôt sable ou galets? Alors oui, je sais, c'est une question existentielle. Et nous, les habitants des Alpes-Maritimes, surtout à Nice, on est en plein dedans. Parce que lorsqu'on dit fièrement que notre promenade des Anglais est une plage magnifique, il y a toujours quelqu'un pour nous dire, avec un petit sourire en coin, « Ouais, mais votre plage, elle est en galets. Ça fait mal aux pieds et c'est pas confortable. »
Oui, des râleurs, quoi.
Oui, mais comment leur donner complètement tort? C'est vrai que marcher sur les galets, ça pique un peu. Mais nous, on ne passe pas 45 minutes à secouer nos serviettes ou à retirer les grains de sable collés entre nos orteils.
Et toc.
Et oui, ici, on a le sens pratique. Et puis, j'ai une info qui pourrait vous surprendre. On pourrait avoir du sable sur la promenade, mais on a choisi de garder les galets. Et oui, pour preuve, chaque année, des camions viennent déposer des tonnes de cailloux sur la plage.
Ouais, il y en avait il y a quoi, un petit mois, et de temps en temps, quand il y a des coups de mer, les galets s'en vont. Mais pourquoi est-ce qu'on les rajoute, ces galets, sur la promenade?
Eh bien, justement, parce que les vagues les emportent. Et si on ne faisait rien, il ne resterait que du sable. Or, le sable, c'est joli, mais ça ne tient pas. Avec la houle, le vent, les tempêtes, la plage serait vite grignotée. pire. L'espace entre la mer et la promenade pourrait tout simplement disparaître. Et soyons honnêtes, si à chaque coup de vent, on se retrouvait avec du sable dans les yeux, ça gâcherait un peu la balade ou le footing sur la promenade des Anglais. Bon, je tiens tout de même à préciser qu'il y a toujours eu des galets sur le littoral niçois, mais depuis le 20e, fin 20e siècle, surtout après les grosses tempêtes, on les réapprovisionne régulièrement. C'est ce qu'on appelle un apport artificiel.
Au fait, ils viennent d'où ces galets, Tom ?
Eh bien, ils viennent de nos rivières, comme le Var ou le Paillon, mais parfois de plus loin, comme dans la Durance, dans les Bouches-du-Rhône. Ils arrivent par camion, sont déposés avec soin et deviennent les gardiens de notre rivage. Alors oui, ça fait mal aux pieds, d'accord, mais c'est grâce à eux que la plage tient. Et avec le temps, ces petits cailloux sont devenus un symbole de la ville. Inimitable, incontournable, ce sont les galets niçois. Et ça, franchement,
c'est une bonne raison d'aimer la Côte d'Azur.
En plein dans le mille.
Ici, la nuit, les oreilles sont grandes ouvertes sur nos meilleurs podcasts. Un podcast ici Cotentin.
Là, j'étais en train d'envoyer des mails à des EHPAD pour leur proposer un spectacle de contes pour Noël.
Là où la facette, pourquoi est-ce que vous m'avez fait venir ici ?
Moi, je suis venue jouer ici avec mon groupe et c'est aussi ici que je fais des shows bingo loto. Je revisite le bingo loto des salles des fêtes de manière théâtrale, improvisée, en interaction avec le public, beaucoup plus dynamique que celui qu'on peut connaître dans les salles des fêtes où nos voisins voisines nous demandent de nous taire parce que le bingo a l'air d'être quelque chose de sacré.
Mais ça l'est à certains moments. Ouais.
Donc j'explique qu'effectivement, c'est pas un bingo loto dans lequel il va falloir faire silence, mais plutôt un bingo loto dans lequel on va pouvoir s'exprimer, exprimer ses émotions, sa déception si on perd, sa joie si on gagne. J'explique bien aux femmes qu'elles peuvent manifester de la colère et que dans le cadre de ce bingo loto, personne ne les traitera d'hystériques. Et j'explique aux hommes aussi qu'ils peuvent pleurer, qu'ils peuvent y aller, qu'ils peuvent sortir des émotions. Personne ne leur dira qu'ils sont fragiles et que dans un contexte de fête où il y a de la bière à évacuer, bah, elle pourra sortir par les yeux, ils n'auront pas besoin de se lever pour évacuer autrement. Voilà.
Vous avez combien de spectacles ? 4-5 spectacles, de la musique.
Il y a le bingo loto, il y a les blind test mashup où je fais un concert-jeu, en fait, où je joue des chansons mais je chante les paroles d'une autre, donc le public doit deviner. Je chante les Mistral gagnants sur l'air de l'Aigle Noir, ouais. Vous voulez que j'essaye comme ça ?
Ouais.
À m'asseoir sur un banc 5 minutes avec toi et regarder les gens tant qu'il y en a. Te parler du beau temps qui est mort et qui revient en serrant dans ma main tes tout petits doigts.
Renaud, l'Aigle Noir.
Voilà. Oh, mais vous êtes hyper fort.
Ouais, je suis fort. Et finalement, c'est qui Léna Quignette?
Elle est très simple, cette question.
Ouais.
Bah, écoutez, j'y avais pas encore réfléchi, c'est l'occasion.
Vous appelez Léna Quignette?
Je m'appelle Léna Quignette. Quignette, c'est comme un quignon, mais encore plus petit. Voilà. Une petite quignette.
Oui, c'est voilà. Ça. Ouais. Alors, c'est qui Léna Quignette?
C'est moi, une femme de 31 ans, comédienne, qui est revenue dans la région, très contente d'être ici.
En même temps, il fait beau, on est à la terrasse d'un café, il y a les dunes pas loin, il y a la mer à deux pas, enfin ouais. Bon, on est bien. Hein.
Oui, pourquoi ne pas revenir?
Bah, c'est ça.
Voilà. À Paris, on est tellement noyé dans la masse que c'est très difficile de rencontrer les gens. Et puis, c'est épuisant, les gens sont épuisés d'être en contact tout le temps avec plein de monde. Là, j'ai l'impression de me faire une petite place sympa, de pouvoir rencontrer assez facilement des gens, donc que ce soit des bars, des EHPAD, des centres de loisirs, des centres socioculturels, avec qui on peut monter plein de choses qui sont assez chouettes, quoi.
Écoutez ici, la nuit, et profitez du meilleur de nos podcasts. Un podcast ici Champagne-Ardenne.
Bien qu'il ait grandi dans les Ardennes, Rimbaud n'a pas toujours eu un rapport idéalisé ou affectueux avec sa région natale. Sa jeunesse à Charleville, entourée par la nature ardennaise, semble avoir été marquée par un sentiment d'ennui et de frustration. Il est souvent décrit comme un adolescent révolté, en quête d'évasion, et ses premiers poèmes reflètent cette aspiration à quitter cet environnement qui lui paraissait étouffant. Pour autant, les Ardennes, avec leurs paysages sauvages et isolés, ont nourri une partie de son imaginaire poétique. Les forêts, les rivières et la campagne sont perçues comme sombres et tragiques dans Le Dormeur du Val, par exemple. Le jeune Arthur n'a pas nécessairement aimé les Ardennes. Il les a vécues comme un lieu de contrainte et de recherche d'évasion. Mais cette terre, avec son atmosphère particulière, a joué un rôle indéniable dans sa formation poétique en alimentant son besoin de fuite et de révolte. Il a défié les conventions de son époque et il a radicalement réinventé la poésie. À l'âge de 16 ans, il est déjà l'auteur de poèmes d'une grande audace. Il compose entre autres Le Bateau Ivre, une œuvre qui incarne l'extrême liberté créative.
Une liberté qu'il revendique avec la fameuse idée du voyage. Un voyage intérieur, mais aussi géographique, puisqu'il partira en Afrique, loin des salons parisiens, à la recherche d'une nouvelle expérience, loin de la poésie. Rimbaud, c'est également l'incarnation d'un esprit de rébellion. À 17 ans, il rencontre le poète Paul Verlaine, avec qui il entame une relation orageuse. Leur liaison pleine d'excès de passion va nourrir la poésie de Rimbaud, mais aussi ses pires démons. À travers des poèmes comme Une saison d'enfer, il peint un monde en décomposition, une société en quête de sens. Et lui-même se cherche dans cette tourmente. Rimbaud n'écrit pas seulement des poèmes, il interroge le monde. Pourtant, à 20 ans, Rimbaud abandonne la poésie. Il laisse derrière lui des œuvres qui ne cessent d'influencer des générations d'écrivains et d'artistes. Arthur Rimbaud, c'est l'un des trésors de Champagne-Ardenne.
Ici,
actu locale, musique et bonne humeur.
Say we're young and we don't know, won't find out until we grow.
Well, I don't know, baby, if that's true, 'cause you got me, baby, I got you.
Baby, I got you, babe, I got you, babe. They say our love won't pay the rent before it's earned, our money's all.
Et nos podcasts. Un podcast ici Bray Zizel.
Prononcer correctement les choses, c'est bien, c'est mieux même. Donc je vais vous aider un petit peu pour la prononciation de quelques mots en breton aujourd'hui et puis ensuite nous irons à la campagne.
Le petit cours de breton.
L'écriture moderne en langue bretonne, je sais, peut parfois poser des difficultés aux non-initiés. Donc je vais essayer de vous aider un petit peu avec cette chronique pour au moins une seule terminaison. Ce sera EN à la fin des mots. Que ce soit pour les mots, donc, mais les noms de lieux, les noms de famille, eh bien, en breton, EN, ça se dit toujours N. D'ailleurs, parfois, vous le faites naturellement. Vous dites Gwen, la couleur blanche, Gwen, le prénom. Personne n'aurait l'idée de dire Gouin ou Gouan. Ça ferait bizarre. Eh bien, si on le fait pour Gwen, autant bien le faire pour tout. Kerguelen. On connaît tous les îles Kerguelen. Alors, pourquoi on entend parfois parler de Ké Kerguelen, comme à Quimper, par exemple? Non, c'est Ké Kerguelen. Et puis un autre mot, par contre, qui lui n'est jamais bien prononcé, c'est Mérienne. Mérienne, comme ça, ça ne vous parle pas. Mais si je dis Mérien, bah oui, vous allez reconnaître le nom de famille, Kermérien, le nom de lieu. Eh ben non, tout ça, c'est faux. C'est Mérienne, Kermérienne. Et au passage, Mérienne, ce sont des fourmis. Donc, Kermérienne, bah, c'est un endroit où il y avait beaucoup de fourmis. Voilà, une petite explication utile à retenir. Et en breton, rappelez-vous, si c'est EN sans tilde, eh bien, on prononce N.
Nom d'un petit breton.
Et le nom de lieu du jour va être simple. Je suis sympa le mercredi, nous allons à la campagne. Var ar mez. Vous avez déjà entendu, je pense, ce mot, vous avez au moins entendu mez. C'est un mot qui sert souvent. Ar mez, c'est la campagne, mais par contre, er mez, c'est l'extérieur ou le dehors. Et on peut l'utiliser différemment. Si vous dites maison en er mez, ça veut dire que je vais dehors, mais dites er mez à quelqu'un, là, ça sert à chasser un indésirable. Er mez. Mais pour revenir à la campagne, eh bien, il faut dire « var ar mez ». On comprend que l'on est sur l'extérieur, sur le dehors. Voilà un mot qui sert de non-lieu, mais aussi de situation géographique. Point de vue de mon Hermès, hein, bah, il est temps que je sorte, que je quitte le studio. Et je vous dis à demain, même heure. Ken Varhoas, on va se rendre juste.
Le petit cours de breton, à podcaster sur ici.fr et sur l'application Ici.
Ici, la nuit, on prend le temps de rattraper le temps. Écoutez nos rediffusions et nos podcasts. Un podcast Ici Creuse.
Vous avez sûrement entendu parler du lycée professionnel qui porte le nom de l'écrivaine Delphine Gay. Mais ces grands bâtiments, c'était quoi avant ?
Je n'en sais rien, c'est un mystère. Je vous souhaite bonne chance dans votre quête.
José Soulier, c'était une manufacture de porcelaine qui à la fin s'est appelée Palace et qui était rattachée à la porcelaine de Limoges. Je pense que c'est dans les années 50 qu'elle a dû arrêter. Mais elle s'est appelée avant Michelot Frères, qui faisait partie de Limoges dans les années 25. Et d'après ce que je sais, la porcelaine Michelot Frères aurait fait la vaisselle du Normandie.
José, qu'est-ce que vous tenez dans les mains ?
Une boîte en porcelaine de Bourganeuf, signé Palace. C'est un bleu avec un décor de fleurs et rehaussé à l'or tout autour. Quand on vide les maisons des gens du coin, on trouve des petites chaises, du petit mobilier pour les enfants que les gens s'amusaient à faire pour ramener chez eux, ce qu'on appelle dans un certain terme de la perruque.
Emma Loévan, en seconde ASSP, soins et assistance à la personne.
Est-ce que c'est plutôt neuf à l'intérieur, les bâtiments ?
La salle de Madame Denis, elle est neuve, mais sinon les autres salles, elles sont pas vraiment en bon état.
Hélène, à l'époque, 79-80. Ça date, hein ? Moi, j'étais en première, je préparais le bac de français cette année. Enfin, en gros, j'essayais de rattraper ma scolarité. Le lycée-collège Picard-Ledoux, lui, il est très ancien. Delphine Gay, c'est très récent.
En montant le chemin à la rue des écoles, là, on va tomber sur ce petit chemin qui est caché entre deux maisons. Donc là où il y a marqué interdit de stationner, vous prenez ce petit chemin. Normalement, toute cette partie-là, un des moules, et vous êtes derrière le lycée Delphine Gay.
Qu'est-ce qu'on voit là à nos pieds ?
Un morceau de moule de la porcelaine, incrusté dans le chemin. Je pense que quand ils ont vidé tout ce qu'il y avait là, à cette époque-là, il n'y avait pas de déchetterie, donc on ne se posait pas de questions. On mettait ça en bas et ça remblayait le chemin. Le passé est sous nos pieds.
Si vous trouvez des moules de porcelaine aux alentours du lycée Delphine Gay, notamment dans le petit chemin qui est juste derrière, c'est le passé qui parle sous vos pieds.
Ici, la nuit, les oreilles sont grandes ouvertes sur nos meilleurs podcasts. Un podcast Ici Loire-Océan.
On part en Vendée ce matin à Bouin, tout près de Beauvoir-sur-Mer et Noirmoutier. Voici François, conteur d'histoire depuis 1987. Il transforme chaque balade en un voyage dans l'imaginaire. Il fait naître des histoires qui touchent petits et grands, mêlant tradition locale et émotion. Une passion présente depuis très longtemps pour François.
Ça vient de très loin, ça vient de ma grand-mère qui racontait des histoires à mon papa et de mon papa qui nous racontait des histoires quand on était petit. Notamment une histoire que ma grand-mère lui racontait racontait l'histoire de Jean sans peur. C'est l'histoire d'un petit garçon qui part de chez lui et qui rencontre le diable.
Oh
ouais. C'est la première histoire que j'ai racontée devant un public. Et en fait, c'est là que j'ai réalisé que j'avais un don pour le conte.
Ça se sent le fait d'avoir ce don pour raconter les histoires, c'est parce que c'est pas donné à tout le monde.
Alors pour moi c'est donné à tout le monde, mais en fait c'est une passion et puis c'est un plaisir d'emmener des gens juste avec l'imaginaire, avec très peu de décors et juste avec les mots. Alors moi j'adore les mots, j'attache énormément d'importance aux mots, à leur sens, et quand j'invente une histoire, eh ben je choisis mes mots avec avec beaucoup de rigueur.
On est d'accord, c'est votre métier, François.
Alors c'est mon métier, c'est devenu mon métier un peu après. Donc moi j'ai eu un parcours où j'ai vécu une vingtaine d'années à la montagne, du côté de Bourg-Saint-Maurice, et j'étais gardien de refuge. Ben, je racontais des histoires au refuge aux gens, le soir à la veillée, et ils remontaient au refuge pour que je raconte mes histoires de colporteur d'histoires.
Quelle émotion justement vous recherchez à travers vos histoires, vous ?
Le rire, la joie. Et aussi un des grands messages, c'est dire qu'on peut toujours se relever. Que dans chaque épreuve de la vie, on peut trouver quelque chose qui va nous faire rebondir.
Alors elle est où la part de vérité là-dedans ?
Alors dans le conte, il y a toujours de la vérité. D'abord, la première vérité, c'est le vocabulaire.
Ouais.
L'autre vérité, c'est que, ben, effectivement, dans la vie, on peut toujours s'en sortir. S'émerveiller de quelque chose, même quand on pense que tout est fini, qu'il n'y a plus d'espoir. Qu'il y ait plein de vie, même dans un lieu qui est quand même assez rigoureux.
Comment la Vendée vous inspire, vous, pour vos histoires ?
Ah ben, la Vendée, c'est mes origines, c'est ma famille, c'est mes oncles et tantes chez qui je suis allé beaucoup en vacances, c'est les bisous de mes grands-mères. Quand, après 20 ans en Savoie, je suis revenu en Vendée, je suis allé boire un café sur la route, et là, j'ai entendu l'accent. Un accent vendéen qui est très maternel, qui est très affectueux, qui est très affectif.
Comment vous imaginez votre avenir, tout simplement, François ?
56 ans, j'ai encore une trentaine d'années à travailler.
Ouais, vous êtes un jeune homme.
Voilà, je pense qu'à 90 ans, ben, j'aurai la barbe encore un peu plus blanche, les cheveux tout blancs, mais je pense que je continuerai à faire des balades comptées au port du Bec, au port des Champs, à la Couplace, etc. Parce que ben, c'est pas un métier facile où on gagne des millions, mais ça c'est un choix. Et par contre, ben, c'est toujours le bonheur de faire rêver les gens, de les faire rire, énormément rire.
François, c'est un personnage attachant et généreux. Avec lui, une simple promenade devient un moment hors du temps.
Ici.
Tu m'as trop souvent dit que t'aimais mes yeux, que t'aimais nos nuits. Maintenant j'ai l'air d'une folle mascara d'école. Tu m'y as fait croire, mais t'es qu'un. Jeune, moi je nous trouvais trop beau, mais c'est qu'un. S'il y a une chose que je veux retenir, c'est que pour aller mieux, faut savoir finir. S'il y a une chose que je sais trop bien, mais reste fait pour les. Je ne reviendrai jamais. Fais pour les.